France Culture.
Entrez donc dans la danse des midis de culture. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure, comme promis, le comédien Nicolas Bouchot sera mon invité. Il joue dans Palombella Rossa, pièce adaptée du célèbre film de Nanni Moretti. Mais d'abord, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène en pleine expansion, l'auto-édition. En 2010, 12% des ouvrages reçus par la BNF au dépôt légal étaient auto-édités, tandis qu'une décennie plus tard, ce sont presque 30% des ouvrages reçus qui étaient générés par cette forme d'édition. Une pratique qui permet à tout un chacun d'éditer un ouvrage qu'il ou elle aurait écrit et qui se démocratise notamment grâce à l'arrivée du numérique. L'auto-édition, ses origines, ses enjeux, c'est notre point culture du jour. Stéphanie Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure documentaliste et docteur en littérature française. Votre thèse s'intitulait « Du conte d'auteur à l'auto-édition numérique, étude des formes et des pratiques de l'édition non sélective ». Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait la différence entre publication à compte d'auteur et auto-édition ?
Alors, le conte d'auteur, comme l'auto-édition, pourrait quelque part se regrouper selon le même objectif, puisque ces deux formes éditoriales permettent de s'éditer en toute indépendance, en toute autonomie. Donc, le conte d'auteur, en fait, est une pratique éditoriale ancienne qui était déjà présente au XIXe siècle, selon les travaux d'Elisabeth Parinet et Isabelle Dihu dans leur livre « Histoire des auteurs ». Et c'était une pratique éditoriale qui était aux mains des éditeurs professionnels. Dans les années 1960 et 70, il y a des nouvelles structures qui sont apparues, des prestataires de services, comme la Pensée universelle, qui ont pris en charge en fait le conte d'auteur et qui ont justement quelque part bafoué de nombreux auteurs en leur faisant croire, en leur faisant penser qu'ils étaient publiés à compte d'éditeurs. Et on a glissé doucement vers l'auto-édition avec l'arrivée du numérique et des plateformes d'auto-édition dans les années 2000.
Alors, juste pour rester un petit peu sur la question du conte d'auteur, on sait que, par exemple, Rimbaud a publié son recueil il y a une saison en enfer à conte d'auteur, mais aussi le premier recueil de Verlaine, les poèmes saturniens. Est-ce que la poésie est un segment, un genre qui, historiquement, est plus publié à conte d'auteur ?
Alors, oui, c'est vrai que la poésie est un segment, est un genre littéraire qui a été particulièrement exploité par le conte d'auteur, notamment avec un éditeur qui s'appelait Alphonse Lemaire, qui a justement pris sous son aile tous les rimailleurs du 19e siècle, notamment, pour les publier à compte d'auteur. Mais il n'y a pas eu, évidemment, que la poésie, des romanciers, des grands romanciers, des grands auteurs classiques, comme Marcel Proust, André Gide, et même des auteurs Louis Pergaud, bien connu pour ses livres, en fait, sur la guerre des boutons, qu'on connaît tous, et qui a publié ses recueils de poésie lui aussi, à compte d'auteur et qui s'est ruiné d'ailleurs pour les publier.
Donc là, vous parliez aussi déjà d'une forme de glissement de la publication à compte d'auteur vers l'auto-édition.
Exactement, donc, oui, il y a ce glissement, dites-moi.
Et est-ce que ça dépasse, enfin, est-ce que l'auto-édition, du coup, dépasse aujourd'hui la publication à compte d'auteur ? Est-ce que c'est vraiment là que ça se passe maintenant ?
Oui, dépasser en termes de chiffres, vous voulez savoir ?
En termes de chiffres, en termes de...
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que avec les années 2000, avec les plateformes d'auto-édition et les géants du net qui sont arrivés, notamment qui donnent Direct Publishing d'Amazon, ces plateformes ont permis leur puissance, ont permis de donner une nouvelle image de l'auto-édition. Ils ont donné une image plus dynamique, plus facile, plus accessible, et quelque part, ils ont légitimé cette forme de publication. Et on assiste à un glissement à tel point que maintenant, l'auto-édition est une pratique ordinaire pour certains auteurs.
Mais alors, il y a aussi un autre enjeu qui est... Enfin, donc là, on comprend qu'il y a une démocratisation, mais comment on fait lire ces livres ? Est-ce qu'on peut les trouver en librairie ? Quels sont les circuits de vente ? Comment ils trouvent leur public ?
Alors, comment ils trouvent leur public ? C'est grâce à un travail acharné des auteurs eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et en fait, les auteurs qui s'auto-éditent maîtrisent toute la chaîne du livre, de l'écriture à la publication, à sa promotion, notamment sur les réseaux sociaux. Ils peuvent être lus grâce à ces plateformes d'édition qui sont aussi des lieux de lecture et qui vendent leurs livres. Mais aussi, on peut commander leurs livres dans les librairies, si le libraire accepte.
Merci beaucoup, Stéphanie Parmentier.
Je vous remercie.
Et une étude autour de l'auto-édition est conduite en ce moment à la Bibliothèque nationale de France.
Oui, l'étude vient de débuter dans le cadre d'un plan de recherche de la BNF et qui durera 4 ans. Irène Bastard, docteure en sociologie et spécialiste des pratiques amateurs, fait partie de l'équipe menant ces recherches, dont le corpus étudié représente pas moins de 24 326 ouvrages, tous auto-édités évidemment, et enregistrés à la BNF au titre du dépôt légal en 2021. Irène Bastard, bonjour.
Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Vous êtes docteur en sociologie, responsable des études de public à la BNF et vous menez depuis peu une étude autour de l'auto-édition. Alors grâce au dépôt à la BNF, on observe qu'il y a une forte augmentation de l'auto-édition. En 2022, les publications auto-éditées représentaient plus d'un quart des manuscrits soumis. Alors vous travaillez donc, on l'a dit, sur les pratiques amateurs, mais est-ce que l'auto-édition est systématiquement le résultat d'une pratique amateur ?
Alors, il y a deux manières de voir les pratiques amateurs dans l'auto-édition. D'abord, il y a le fait que c'est une édition où les auteurs prennent l'initiative de réaliser eux-mêmes leur ouvrage, leur livre, et donc ils se font amateurs de l'édition en apprenant à fabriquer un ouvrage, à le relier, à l'imprimer. Donc ça, c'est une manière de se dire que l'auto-édition est devenue une pratique amateur. En même temps, il y a aujourd'hui un certain nombre de services en ligne ou de maisons qui proposent de l'accompagnement pour que ce soit des résultats les plus professionnels possibles, selon leur dire. Donc cette première manière. L'autre manière de se demander quelles sont les pratiques amateurs dans l'auto-édition, c'est qu'en fait, dans ce corpus d'ouvrages et de production, il y a de la littérature, il y a de la fiction, il y a aussi de l'histoire de France, des sciences, et donc c'est plutôt des pratiques amateurs qui seraient par exemple des historiens, des généalogistes qui mènent des recherches par eux-mêmes à tous âges de la vie et qui en aboutissent à un moment à écrire un livre pour un cercle plus ou moins large dans un contexte de société savante ou autre et qui donc font advenir un livre qui n'aurait peut-être pas été dans l'édition traditionnelle pour des raisons X ou Y de leur activité.
Et donc vous brassez un corpus assez conséquent là en ce moment pour mener à bien votre recherche. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous arrivez à avoir déjà une vision d'ensemble suffisante qui vous permette de voir à peu près quel est le genre peut-être qui est le plus surreprésenté dans l'auto-édition ? Est-ce qu'il y a un genre qui est surreprésenté ?
Alors très clairement, donc c'est une recherche qu'on entreprend avec un chercheur postdoctorant qui s'appelle Iñaki Ponce-Natabal. Ce qu'on voit grâce aux chiffres produits par l'Observatoire du dépôt légal, c'est que en termes de volume, la fiction très importante. Dans l'édition en général et dans l'ensemble des ouvrages qui sont déposés au dépôt légal, on compte 4 livres sur 10 qui relèvent de la fiction, de la littérature. Dans l'auto-édition, on est plutôt à 6 sur 10. Donc, il y a plus de romans, il y a plus d'écrits artistiques. Néanmoins, il faut regarder comme, effectivement, vous le sous-entendez, en fonction des genres. Par exemple, dans la poésie qui étudie Iñaki Ponce-Natabal, c'est 53% des publications qui sont catégorisées comme de l'auto-édition par la bibliothèque. Donc, c'est plus de la moitié des productions de l'année 2021 qui relèvent de cette activité.
Alors, bon, on rappelle, bien entendu, que vous en êtes qu'au début de cette recherche, donc tout peut changer. Mais est-ce que vous avez déjà des intuitions concernant les éventuels résultats que vous serez amené à présenter ? Dans 3 ans, je précise.
Je ne sais pas si c'est des intuitions ou aussi des questions, des formes de réflexion. En fait, il y a déjà l'idée que il y a une production du livre qui s'inscrit dans un continuum de médiums, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent des expositions en poésie, il y a des performances, en histoire de France, il y a des événements autour des conférences de l'histoire locale, des choses comme ça. Et donc, le livre a un peu un statut particulier, enfin, pourrait avoir un statut particulier par rapport à l'ensemble de ces productions et que c'est bien l'ensemble de ces systèmes de reconnaissance de légitimation qui sont à étudier pour comprendre comment s'active l'espace social qui est construit par ces pratiques et qu'est-ce qui fait que dans la vie des individus, cette activité prend du sens. Donc ça, c'est une première piste autour de cette ampleur des productions et de la question du rôle particulier du livre. Il y a aussi la question de comment est-ce que l'espace de reconnaissance qui est construit, que ce soit la famille, les pères, par exemple, les autres poètes, les autres historiens, qu'est-ce qui leur fait dire que c'est un bon livre, que c'est un beau livre, et que donc il y a une production qui va se structurer avec une forme de norme est un peu fort comme mot, mais une idée d'un statut de « ah oui, ça c'est intéressant à produire » et qu'en fait tous ces objets participent à l'espace social des amateurs, mais aussi à l'espace public plus largement, à une représentation de ce qu'est la poésie, à une représentation de ce qu'est l'histoire ou la littérature à partir de ces contenus qui peuvent exister, sachant que ce que montraient aussi les études de Stéphanie Pelletier, c'est qu'on a peu d'informations sur les ventes, mais c'est pas forcément des ouvrages qui sont beaucoup vendus. Néanmoins, c'est des ouvrages qui peuvent se diffuser dans d'autres cercles que les cercles de vente. Et donc, il y a une question sur la diffusion de ces ouvrages qui restent et qui n'est pas forcément un but en soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des auteurs qui disent ne pas forcément vouloir faire beaucoup de ventes. Ça reste des discours à analyser, mais c'est bien un re-questionnement de l'objet livre comme étant pas forcément un objet commercial à envisager.
Merci Irène Vastard.
Merci à vous.
Et merci Sophie Catherine. On se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles et un nouveau Point Culture.